certainement à cause de la peur de mourir, mais je me suis toujours dit que j'allais arrêter de fumer avant d'avoir 40 ans, avant d'être vieux. Parce que c'est un problème de vieux d'essayer de rester jeune, paradoxalement. Et donc je m'étais dit ça, et je croise un ami, un ami argentin qui m'explique qu'il va réaliser un documentaire sur l'arrêt de la cigarette et qui cherche quelqu'un, un personnage singulier, qui tiendrait un journal comme ça de l'arrêt du tabac et qui servirait d'ossature à son documentaire. Je dis pourquoi pas. J'avais 39 ans, alors c'était un signe. Plus jamais on me proposerait d'argent pour arrêter de fumer. Donc voilà, je ne sais pas si j'avais raison, mais à l'époque, je me souviens, je me suis dit que j'avais du bol. Et donc on a fait ce documentaire, on l'a fait, puis comme c'était pas une fiction, que c'était un documentaire, j'ai arrêté de fumer. Et donc c'est moi qui fumais un paquet par jour depuis que l'âge de 14 ans, un paquet par jour et un paquet par nuit, je me retrouvais un gros non-fumeur. Donc je non-fumais beaucoup plus que tous les gens qui n'ont fumé autour de moi, comme ça, nonchalamment, sans y penser. Et puis voilà, j'avais écrit ce journal qui racontait comment on peut devenir fou quand on arrête de fumer, et comment aussi, dans un monde empreint d'intolérance et d'une certaine hystérie hygiéniste, on pouvait passer de résistant à collabo. Donc, on avait fait ce documentaire. Alors, là, j'avais arrêté de fumer. Ça s'était plutôt bien passé, sauf que, évidemment, j'avais remplacé le tabac par l'alcool, et j'avais un peu mal à la mâchoire à cause des chewing-gums à la nicotine que je mâchais tout le temps. Enfin bon, j'ai un copain qui lit le journal que j'avais tenu pendant le documentaire, et il me dit « c'est pas mal, pourquoi t'en fais pas un livre ?» Et alors, il me présente à une éditrice qui était sympathique et ravissante, et qui me dit « oui, bah oui, elle était partante. Bon, allez, va pour le livre. Cette histoire d'arrêter de fumer, ça commençait à devenir une bonne affaire, en fait. » Et donc, voilà, entre-temps, le documentaire avait été diffusé, avec un peu de succès, enfin pour un documentaire en tout cas, donc dans la limite des places disponibles. Et en tout cas, il y avait des gens qui m'arrêtaient dans la rue, qui me disaient comme ça, faut pas lâcher, vas-y, tiens bon, tout ça, avec des gestes de boxeur bourré, ça fait un peu peur. Et surtout, ce qui fait peur, là où la peur monte d'un cran, c'est que les gens venaient me voir comme si j'étais tabacologue pour me raconter leur combat personnel avec la cigarette, et me raconter des trucs extrêmement personnels. Et ça fait peur, par exemple l'intimité avec des gens qu'on n'a pas vraiment choisi. Donc voilà, la peur montait d'un cran. Mais j'avais écrit ce petit livre, le petit livre est sorti, et il a eu lui aussi un peu marché, c'était dans l'air du temps comme ça, et suffisamment marché en tout cas pour qu'on m'invite dans des festivals du livre en province, dans des grandes tentes blanches comme ça. C'est un peu des foires à la célébrité de deuxième main. Moi, je me souviens d'avoir déjeuné à la même table que Eddie Merckx, Luc Ferry et la dame qui présente la météo sur TF1. Les trois à la même table et moi. Je me souviens aussi quand on est sorti, il pleuvait. Et elle l'avait pas annoncé, la dame. Et je me souviens aussi que Eddie Merckx était très philosophe. Mais en tout cas, voilà, dans ces salons, on a un peu peur parce qu'on se retrouve, on passe la journée derrière une table, comme ça, derrière des piles de livres, et on est coincé. Moi, j'étais coincé entre le monsieur qui avait écrit « Comment construire sa maison verte », là, et là, un monsieur barbu qui était gentil aussi, mais qui en était au 8e tome de ces histoires de dragons et de sorcières hyper bien gaulées sur les couvertures, je me souviens. Et là, c'est « Open bar pour les fous ». Et là, vraiment, on commence à avoir plus peur. On est assis, on est bloqué, et puis les gens viennent. Et là, ils peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent. Il suffit qu'ils achètent un bouquin. Des fois, même, ils ne prennent pas la peine de ça. Je me souviens d'un monsieur qui m'avait dit « Ah, ça te fait rigoler, toi, l'arrêt du tabac ? Parce que moi, mon père, il est mort d'un cancer, je lui tenais la main. Ça te fait rigoler, ça ? Non ?
Non, monsieur.
Je lui ai expliqué, je me souviens d'avoir essayé de lui expliquer que justement c'est la peur de mourir, moi qui avait motivé mon truc depuis le départ. Enfin bon, on est aussi soumis à un truc dans ces foires aux livres, qui est la lecture publique d'œuvres. Donc voilà, on choisit un petit morceau de son livre, un morceau qu'on a écrit dans l'intimité de la nuit et de sa chambre, comme ça, tout seul, et qu'on va lire à haute voix devant plein de gens. Donc là, la peur monte de 4 crans. Vous savez, les études montrent que c'est d'ailleurs la peur numéro 1, la prise de parole en public. La peur numéro 2, c'est la mort. Ce qui fait que, en fait, dans des funérailles, les gens préféreraient être dans le cercueil que le type qui est debout devant et qui lit un petit texte pour dire que le mec était chouette. Enfin bon, moi j'étais mort de peur, je lisais des bouts de mon truc, et comme les gens aiment bien voir des gens morts de peur, ils trouvaient ça très drôle, tout le monde rigolait, et à mes dépens. Et puis il y avait une productrice qui était là, et qui a vu, et qui est venue me voir à la fin, et qui m'a dit, mais les gens rigolent, elle produisait des one-man shows, elle dit, pourquoi t'en fais pas un spectacle? Bon, je lui ai dit oui. Et puis là, c'était quand même la troisième fois que je passais à la caisse avec l'arrêt du tabac. Il me restait à faire des t-shirts, des porte-clés, une expo de peinture. Donc je retravaille mon texte en y mettant des blagues parce que j'avais peur. Et donc quand on a peur, je fais des blagues. Et puis la dame m'appelle. Elle me dit, j'ai une salle, c'est bon, j'ai trouvé une salle. Bon, c'est tout petit, c'est un trou dans le mur, comme ça, il y a 40 places. Mais tu peux commencer dimanche. Oh. Et là, je raccroche. Et là, la peur, vraiment, est montée d'un cran. C'est devenu la peur maladive, que je connaissais pas avant. Voilà, je jouais le dimanche et le lundi. Et à partir du jeudi, j'avais des coliques terribles. J'ai joué dans ce trou dans le mur là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et la seule chose dont je me souviens, c'est d'avoir eu peur, tout le temps. Donc au début, il y avait peu de monde. Et puis après, je sais pas quoi, les gens ont dû en parler. Ça s'est finalement un peu rempli. Il y a des critiques qui sont venues. Et puis, il y a un type du Festival du Rire qui a vu le spectacle et qui a dit, moi, je l'achète. Et ben, direction Montreux. Je me retrouve dans le train des comiques. Tous les gars de la télé, comme ça, qu'on voit à la télé. Et moi, mort de peur, sur mon fauteuil. Et puis on arrive là-bas, et puis je regarde le programme, et là je vois que dans la même salle où je me produis moi le vendredi, eh bien le lendemain, le samedi, c'est le Jamel Comedy Club. Mais moi j'avais rien demandé, moi. Enfin, je suis pas comédien, j'ai juste arrêté de fumer. Donc j'ai peur, et on m'amène à la salle, ou plutôt on m'y traîne. Et une fois que je suis là-bas, je parle avec le régisseur et il me montre la salle, c'est Bercy. Enfin, ça fait 300 places, mais c'est Bercy pour moi. J'avais très très peur. Et donc avant juste avant le spectacle, je vais à l'entrée des artistes pour essayer de prendre un peu l'air. Et puis il y avait le régisseur était là qui fumait une clope. Alors j'en ai tapé une. Et j'ai recommencé à fumer.